Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Bonjour et bienvenue sur notre site Bible Espoir et je voudrais vous conduire dans une méditation aujourd'hui qui a trait naturellement à la fête de Noël et j'ai donné un titre à notre réflexion, à notre méditation qui est celui-ci, « Même les étoiles parlent de toi, même les étoiles nous parlent de Jésus ». Alors, pour nourrir notre pensée, nous allons prendre un texte dans Matthieu, chapitre 2, et verset 1er, et je relis quelques passages que j'ai choisis, où il est question des étoiles. Alors, donc, Matthieu, chapitre 2, verset 1er, « Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et ils dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Un peu plus bas dans notre texte, verset 7 précise « Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux « Depuis combien de temps l'étoile brillait ?» Verset 9, « Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient aller devant eux jusqu'au moment où. » Et le verset 10 conclut, « Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison et virent le petit enfant avec Marie sa mère. » Se prosternèrent et l'adorèrent. Voilà pour le contexte, et j'aimerais donner quelques renseignements sur, ces personnages mystérieux qui arrivent d'une région lointaine, que l'on appelle mages. Ce sont des savants astronomes. Savants astronomes, des hommes qui, là, ont pour discipline d'étudier l'astronomie et non pas l'astrologie. Je dis bien l'astronomie. C'était des hommes étrangers à, naturellement, la nation des Hébreux. Ils ignoraient la foi de ces derniers et la révélation divine, mais nous croyons que leur expérience a été marquée parce qu'ils ont pu lire dans le ciel temps de leur voyage, un grand voyage, qui a duré certainement plusieurs jours, plusieurs semaines, et ils ont pu lire dans le ciel et discerner l'approche venue du Messie d'Israël, du Messie promis, celui qui est devenu naturellement un titre universel, le Fils de Dieu et Sauveur, la personne de Jésus-Christ. Ils étaient venus d'Orient pour chercher, pour reconnaître, rencontrer le roi des Juifs et l'adorer, comme nous dit le texte. Et ils avaient naturellement, pendant tout ce long voyage, un mystérieux pressentiment à l'intérieur d'eux-mêmes, une étrange intuition, c'est-à-dire ce qui les a motivés. On ne peut pas parler de foi, de conviction, au sens où nous le connaissons naturellement et révélé dans les évangiles. Mais néanmoins, Dieu a su parler à leur cœur, a su véritablement animer leur réflexion, leur intelligence, et ils avaient ça à l'intérieur d'eux-mêmes, cette intuition qui les a fait marcher pendant des jours et des nuits. Ces mages d'hier, on peut peut-être l'ajouter, sont à l'image de tous ceux aujourd'hui qui, sans le savoir vraiment, sont observateurs ou sont les observateurs émerveillés du monde, de ceux qui veulent comprendre, percer les mystères de la création, jusqu'à même pénétrer la présence, la toute-puissance et l'omniscience de Dieu qui se cache, les origines et la toute fin du monde. Alors il y a beaucoup de choses naturellement et bien dans cette pensée, c'est-à-dire que il y a des gens dont le monde environnemental les laisse complètement indifférents. Voilà, simplement, mais ce n'était pas le cas de ces hommes, parce qu'ils s'émerveillaient de la grandeur et tout cela pouvait éventuellement les laisser penser qu'il y ait un créateur, que les choses ne sont pas faites toutes seules, ne sont pas le produit ou le fruit du hasard, mais alors ils ont voulu naturellement se rendre compte avec cette intuition, ce pressentiment qu'ils avaient, de se rendre compte des choses, et ils ont été conduits, après en effet ces longues marches, et bien là, à voir, à se rendre compte, à observer, et ainsi de comprendre et de percer les mystères, en effet, de cette présence divine, la toute-puissance et l'omniscience de Dieu. L'omniscience de Dieu, ça veut dire tout simplement que Dieu sait tout. Il a le savoir sur toute chose. Non seulement il est tout-puissant, mais il est omniprésent également. Donc, j'ai retenu tout simplement l'omniscience, celui qui sait tout, mais qui se cache. Et les raisons des origines de l'homme, de la création et la toute fin du monde. Il y a un homme qui a fait une expérience semblable d'une autre, de la même nature, on pourrait dire, mais différemment, c'est l'apôtre Paul. Lorsqu'il est arrivé dans cette grande ville, dans cette, nous pourrions dire, capitale de la Grèce, c'est-à-dire à Athènes, et au coin au détour d'une rue, eh bien, il a vu une statue à un dieu dédié à un dieu inconnu. Alors, Éphèse était une ville qui était naturellement rempli de différentes icônes, différentes effigies, mais là il y en avait un et il s'est arrêté à ce moment-là et il a pu présenter l'évangile, ce que vous révérez sans le connaître, eh bien moi je vous l'annonce, et c'est là où l'apôtre Paul à Athènes, devant les philosophes, devant les érudits, devant les savants, a pu leur dire, eh bien moi je vous annonce un Dieu qui est peut-être inconnu pour vous, vous l'avez dédié de cette manière, vous l'avez nommé de cette manière, mais moi je voudrais vous dire qu'il y a un Dieu qui n'est pas celui que vous pensez, il n'est pas fait de plâtre, d'or ou d'argent, mais ce Dieu, c'est un Dieu vivant. Et moi, je vous l'annonce aujourd'hui. Donc, c'est ce que Paul a fait comme expérience. Et il a pu enseigner naturellement tous ces gens qui étaient autour de lui. Nous voyons et nous lisons que, eh bien, ils ont été ces mages éblouis par une étoile minuscule. Comme toutes les étoiles d'ailleurs, vues de chez nous, vues de notre basse terre, eh bien c'est toujours de la même manière. Ils ont été éblouis, pourquoi celle-ci et pas une autre, dans un ciel constellé de toutes sortes de lumières, accrochées à la voûte des cieux. Ils ont été éblouis et nous voyons qu'ils osent à ce moment-là, devant cette étoile qu'ils regardent, qu'ils captivent, comme si elle les appelait, alors ils vont oser se mettre en route et aller à l'aventure, à la rencontre d'un petit enfant naissant, et leur vie entière va basculer dans une autre histoire inattendue, dépassant leur connaissance, dépassant leur science humaine, pour entrer dans la mystérieuse révélation de ce que ce Dieu est connu. Et plus ils s'approchent, plus ils se laissent conduire par l'étoile, plus alors montre le chemin, davantage leur cœur brûle d'un feu inexplicable. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose de mystérieux que le récit de l'Évangile nous rapporte dans des mots très simples, mais qui a naturellement une signification. Cette merveilleuse révélation de ce Dieu. Alors, plus ils vont, après des jours et des jours de marche dans les déserts, se rapprochant de ce pays qu'il ignore également, la Palestine, enfin cette région donc d'Israël, eh bien ils ressentent à l'intérieur d'eux-mêmes comme une brûlure, comme un feu qui est là au fond d'eux-mêmes, et nous voyons que c'est en quelque sorte une confirmation, c'est en sorte comme si Dieu leur disait, eh bien voilà, je vous mets à l'intérieur de vous-même comme une boussole d'abord pour pas vous tromper de chemin, mais d'un autre côté, plus vous allez vous approcher de ce que vous êtes à la recherche, plus vous allez découvrir, Eh bien, moi, ce que j'ai à vous dire, hein, et il nous est simplement dit que, eh bien, leur cœur brûlait, comme d'autres disciples d'ailleurs, que l'on appelle les disciples d'Emmaüs, qui, sans le savoir, après la crucifixion et la résurrection de Jésus, marchaient sur un chemin pour retourner dans leur village, et ils ont rencontré Jésus, ils ont fait la conversation avec Jésus, mais sans pouvoir le reconnaître, jusqu'au moment où là, eh bien, ils confesseront, lorsqu'ils découvriront que leur compagnon de route, eh bien, c'est Jésus, celui qu'ils ont connu, celui avec lequel ils ont partagé, eh bien, de longues journées, eh bien, c'est ce Jésus-là. Ils diront cette parole, mais notre cœur ne nous brûlait-il pas lorsqu'il s'entretenait avec nous des Écritures? Voici cette curiosité salvatrice chez tous les chercheurs de Dieu. Moi, je souhaite que vous soyez des chercheurs de Dieu. Que l'on ne se contente pas du rationalisme, de tout ce qui finalement est dans le domaine de la compréhension uniquement et de ce que nous pouvons, toutes nos déductions pour nourrir à la fois notre intelligence, nos raisonnements et nos philosophies, notre philosophie. Mais il y a des hommes qui sont des chercheurs de Dieu, qui sont à la fois comme ces mages, qui sont à la fois également comme les disciples d'Emmaüs, qui sont comme Moïse devant le buisson ardent, qui va sentir qu'il y a quelque chose de tout à fait particulier. Et plus ils vont s'approcher, plus ces hommes vont, s'approcher de ce qu'ils recherchent, plus ça va les brûler au fond d'eux-mêmes. Ceux et celles qui, sans le savoir, marchent à l'étoile, et c'est ce que nous pouvons dire, les mages ont marché à l'étoile en quelque sorte. Hein. Ils ne pouvaient marcher que la nuit, hein, parce que bon, une étoile, ça brille la nuit, à moins qu'elles aient allé encore quelques éclats dans la journée, je ne sais pas. Force est de conviction intérieure que celui qu'il appelle Dieu, celui qu'il pressente Dieu, eh bien, il existe quelque part. Et que Dieu est, que Dieu, eh bien là, n'est pas le Dieu de l'histoire, n'est pas seulement le Dieu qui traverse, eh bien, la vie des hommes, mais qu'il est réellement Dieu. Dieu qui se fait homme dans un nouveau né, et ce n'est que le croire, qu'une forme de folie, naturellement. Comme une force quasi-magnétique, cette intuition dont nous parlons tout à l'heure, de quelque chose qui ressemble à l'amour et à la promesse du bonheur, ce sentiment impérieux, les mages marchent vers une destination improbable. Ce ne sera pas vain, puisqu'ils vont découvrir, quelque temps après, lorsqu'ils arriveront dans le village de Bethléem, à Jérusalem d'abord, et également à Bethléem, que quelqu'un les attend. Il faut, avec la lecture du grand livre de la nature, livrant quelques clés de compréhension du Dieu de la création et son œuvre créatrice, ajouter un autre grand livre, c'est celui de la révélation. Donc aujourd'hui, nous avons toutes les pièces en main. Hein, lorsque nous regardons la création, le firmament, la beauté de cette signature humaine, hein, dans les choses, dans la vie des hommes, dans la vie des animaux. Alors ça, c'est le grand livre de la nature. Et puis, il y a l'autre grand livre que j'ai appelé la révélation, celui que nous avons entre les mains, que nous pouvons lire, hein, c'est-à-dire la Bible, hein, parce qu'elle nous explicite, elle nous donne ce dont nous avons besoin de comprendre. L'un et l'autre, le grand livre de la nature et le grand livre de la révélation, eh bien, sont indispensables. Et ce sont les scribes et les savants, les religieux qui étaient dans la présence du roi Hérode à Jérusalem, qui vont livrer en quelque sorte au roi, parce que ça s'adresse naturellement au roi et accessoirement aux mages, eh bien ils vont livrer la connaissance biblique dans l'entourage d'Hérode, qui font compléter l'information qui manque aux mages désorientés. Être si près et avoir du mal à croire, ça c'était le problème d'Hérode, c'était le problème également religieux, et ils étaient si près que finalement ils éprouvaient une grande difficulté à croire que le Messie d'Israël, que le Sauveur du monde était si près d'eux. Et les choses sont confirmées à travers le texte, précisément par ces érudits religieux. La valeur des écrits prophétiques qui donnent à la fois la bonne adresse où le Messie se trouve, comment le reconnaître et quoi faire devant lui. C'est ce qu'il nous est dit dans les Matthieu, dans chapitre 2 et au verset 2 et 6. Alors, les mages dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et notre but, c'est que nous sommes venus pour l'adorer. Et un peu plus loin, nous voyons que le contexte nous est rappelé, le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, c'est la prophétie, tu n'es certes pas la moindre d'entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Alors, nous avons donc cette première donnée, mais il y en a une deuxième, c'est ce que nous avions commencé à lire tout à l'heure. Les mages entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie et sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Et ils ouvrirent leurs trésors, etc., etc. Tout se résume dans « Il est écrit ». Et très souvent, nous voyons dans l'ensemble de la Bible, l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, pour ponctuer les vérités, pour ponctuer la volonté de Dieu, pour asseoir toutes les affirmations absolues de Dieu, eh bien c'est que l'étoile leur fait lever les yeux vers le ciel, et c'est la parole qui leur ouvre leur cœur. Donc ils ont eu besoin de ces deux éléments importants, à la fois le livre de la nature en regardant les étoiles, et d'un autre côté, quand ils sont venus dans le temple d'Hérode, ils ont été informés sur la véracité de l'Écriture. Nous avons remarqué une chose lorsque nous avons fait notre première lecture, c'est que quatre fois dans ce texte de Matthieu, il est question d'étoiles. Quatre fois, le mot « étoile » est cité. D'abord d'une manière visible, ensuite elle brille, ensuite elle conduit les mages, elle s'arrête à un endroit particulier et elle produit l'allégresse, puisque à un moment donné, il nous est dit que ce fut l'occasion d'une grande joie. Alors nous avons besoin peut-être de nous arrêter sur cette première révélation et de regarder les étoiles, de contempler l'immensité infinie du ciel, ce qui peut être décliné sous cette forme, de cette manière, l'incommensurable constellation des astres. Alors, nous savons très peu de choses de ce monde qui est si éloigné de nous, qui est si, en effet, perdu dans l'univers, dans l'immensité infinie du ciel. On parle de Voie lactée, on parle de nova, de supernova et autres espaces sidéral. Il y a naturellement un vocabulaire particulier si l'on veut s'y arrêter. Par exemple, il est question de vitesse et de distance astronomique. C'est quelque chose qui nous dépasse. Nous savons que les hommes ont fait ces derniers temps des progrès considérables avec la découverte et les voyages dans l'espace. Ça, c'est certain, et c'est quelque chose qui finalement nous époustoufle, nous sommes complètement abasourdis de savoir et de pouvoir voir même quelquefois des images. Mais une chose qu'il faut savoir, c'est que on ne va pas très loin encore. On est encore véritablement attaché à notre planète Terre. Et nous voyons quelque chose de particulier, c'est que, et nous pouvons le souligner, c'est que Dieu adapte son langage aux hommes. Vous savez, quand Jésus a donné ses paraboles et autres, ses enseignements, il a parlé aux pêcheurs, il leur a parlé de poissons. Quand il a parlé à l'agriculteur, il leur a parlé de semences. Quand il a parlé d'élevage, il a parlé de brebis. Et là, nous voyons que Dieu, que dans ce langage, il adapte. Et bien là, le message qu'il veut faire passer à des hommes qui sont des astronomes. Donc, il va leur parler d'étoiles par le mystère de l'étoile, les mystères des étoiles à la grandeur du firmament. Et je voudrais simplement souligner quelques informations, et elles sont très précaires, naturellement, elles sont très fragmentaires. Mais il y a naturellement des choses que nous pouvons ajouter. L'unité de distance et compréhension des valeurs célestes se mesure en années-lumière. Et l'année-lumière, c'est tout simplement la distance parcourue par la lumière en un an à la vitesse, écoutez bien, de 299 792 km/s. Alors inutile de prendre un vélo, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire une distance parcourue de 9 milliards de kilomètres, si nous parlons de la galaxie du Soleil, et je me suis livré à quelques mesures entre la distance de la Terre au Soleil, 149 597 870 km. Ça, c'est Terre-Soleil, la planète la plus proche. Et je parle, ce sont des planètes, ce ne sont pas des étoiles. Nous voyons que Mercure, par exemple, la distance de Mercure au Soleil est de 58 millions de kilomètres. C'est celle qui est la plus proche. Et puis, si nous allons à l'autre bout du système solaire, de la galaxie du Soleil, eh bien, il y a Uranus, et la distance d'Uranus au Soleil est de 2 milliards 800 millions de kilomètres. Alors, évidemment, c'est quelque chose, ce sont des chiffres, eh bien, là, qui étourdissent, mais qui sont pourtant, eh bien, des réalités. Pour nous montrer l'immensité infinie du ciel. L'infinité de la création céleste, que l'on appelle aussi la magnitude, qui vient éclairer un lieu si petit par son insignifiance, un petit village qui s'appelle Bethléem, parce que nous voyons qu'à un moment donné, il nous est bien précisé que l'étoile s'est arrêtée au-dessus de, donc, Bethléem, et en ce même lieu, un nouveau-né, c'est pas gros, c'est pas grand, c'est pas quelque chose qui n'a pas encore bien la taille d'un homme, eh bien un nouveau-né promis à remplir de sa gloire les mondes de l'univers. Et nous voyons qu'il y a quelque chose qui est très intéressant parce que nous l'avons sous forme d'explication en quelque sorte dans Apocalypse, si nous voulons en effet eh bien reprendre ce passage, Apocalypse chapitre 22, où nous lisons ces paroles. Alors que je retrouve brièvement, rapidement, notre référence, où il est dit ceci, voilà, où il est dit ceci, chapitre 22, verset 16, « Moi, dit Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. » Tout ce que nous pouvons eh bien, recevoir de vérité et Seigneur, de ce que le Seigneur nous donne. « Je suis, dira-t-il, le rejeton. » Et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Retenons l'étoile brillante du matin. Dans 2 Pierre, au chapitre 11, et là nous avons aussi quelque chose qui nous informe sur ces révélations dans ce monde si, si grand, si important. Et au chapitre 19, il est simplement rappelé cette parole. Donc, 2 Pierre, et non pas 1 Pierre, au chapitre 1, verset 19, il nous est parlé comme d'une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Il y a 3 révélations à travers ces quelques déclarations que nous avons là devant nous. 3 révélations concomitantes. D'abord, le témoignage des siècles. Et le témoignage des siècles qui nous est rapporté sous l'inspiration du Saint-Esprit de Dieu, c'est tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, où eh bien, les choses se présentaient de cette manière, la parole de Dieu dite et écrite, c'est-à-dire elle parvient aux hommes comme une loi morale, comme une loi religieuse, comme une loi sociale qui traite de la vie à la mort des hommes. Et cela, cette parole a été donnée aux hommes, a été donné à Israël d'abord et aux hommes dans leur généralité, en raison du péché, de la corruption et de l'imperfection. Ça, c'est la première révélation. La deuxième révélation, c'est celle dans laquelle nous sommes en train de lire, c'est-à-dire le Nouveau Testament, qui est une parole vivante, qui a été faite homme, c'est-à-dire l'incarnation de Jésus-Christ, et qui a en effet été inaugurée par le sacrifice de Jésus à la croix, nous amenant eh bien, à la foi, à la grâce qui part de la naissance de Christ à Bethléem et qui va jusqu'à Golgotha et qui nous apporte non seulement la foi, qui nous apporte la grâce, mais qui nous apporte le pardon. C'est une parole vivante, une parole vécue. La première était une parole écrite et dite, consignée dans un livre que l'on appelle l'Ancien Testament. Maintenant, c'est le Nouveau Testament. Et puis la troisième révélation, c'est celle où il est question de plénitude. Jusqu'ici, dans la première, dans la deuxième, les choses n'étaient pas complètes. Mais quand nous arrivons dans le livre de l'Apocalypse, où que Jésus dit « Je suis l'étoile du matin », nous avons atteint la plénitude parfaite, l'étoile du matin ou la lumière, où la pleine clarté d'un monde nouveau, éternel et glorieux arrive et est en train de véritablement se réaliser à travers un jour nouveau, à travers une vie nouvelle, à travers ce que l'on appelle la conversion des hommes à Jésus-Christ, c'est-à-dire une nouvelle naissance où il est question d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Donc tout ceci, toujours pour revenir à notre affaire d'étoile, c'est quelque chose qui est très intéressant de prendre en compte parce que c'est un ensemble. Pour les savants, les mages dont nous avons parlé, pour les savants d'aujourd'hui, les savants du monde, et ceux qui sont des chercheurs de Dieu, d'une manière ou d'une autre, soit qu'ils fouillent dans la Bible, ou soit qu'ils fouillent dans le grand livre de la nature, ces hommes qui sont soucieux de vérité, de la vérité, ils prennent en effet leur référence et leur appui dans la lecture du ciel dans sa majesté, et c'est ce que nous est dit d'ailleurs Paul, le décrit très bien dans l'Épître aux Romains quand il dira ceci, « Car ce que l'on peut connaître de Dieu est manifeste pour les hommes, pour tous les hommes, croyants ou incroyants, Dieu le leur ayant fait connaître. » À travers ces deux grands livres de révélation, on l'a dit, je le répète. En effet, les perfections invisibles de Dieu, c'est-à-dire ce qui ne se voit peut-être pas au premier abord, mais où Dieu parle et se révèle. Sa puissance éternelle, sa divinité se voit comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Alors, c'est quand même assez réjouissant de savoir que Dieu a mis tout à disposition pour que sa créature, l'homme, la créature humaine, puisse découvrir ce qu'il est. Et tout cela, n'est-ce pas, les prémices d'une plus complète révélation du salut éternel, de son amour, de l'amour du Créateur et de celui nouveau-né, celui qui a été fait homme, Dieu, Dieu-homme, rédempteur, en devenir et qui va véritablement va prendre le titre d'étoile brillante du matin, qui nous invite à cette double lecture et double chemin, la première lecture avec nos yeux et intelligence, et la seconde avec nos cœurs et notre conscience, selon ce que Jésus déclara à un moment donné à ses disciples, quand il dira « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie, la vraie vie ». Pas l'existence humaine, pas cette existence temporelle de 80 à 100 ans pour les plus forts, mais la véritable vie, je suis le chemin. Alors, j'aimerais simplement terminer à travers une petite histoire qui montre bien la grandeur de Dieu. Nous avons contemplé le ciel, nous avons vu là manière dont Dieu s'est révélé aux mages, s'est révélé au peuple d'Israël à travers cette étoile qui entraîne quelques hommes à la suivre pour leur montrer où se trouve, où demeure Jésus, nous pourrions dire, comme un autre disciple l'aura suggéré dans l'évangile de Jean, et que nous puissions vraiment apprendre, être interpellés pour sonder, pour discerner, pour nous rapprocher et surtout pour faire confiance. Je crois que ça c'est important. Alors, cette petite histoire consiste en ceci, comment Dieu est grand. Voilà. Alors s'il est le créateur de toutes choses, du ciel et de la terre, des étoiles, des mondes, enfin tout ce que l'on peut imaginer, mais nous n'avons qu'une vision très très limitée. Et notre façon de voir, ce sont des choses matérielles, des choses physiques, des choses matières. Alors que véritablement tout ce que Jésus veut nous enseigner, ce que l'Évangile veut nous révéler pleinement et complètement dans sa plénitude, c'est un monde moral et spirituel. Et je dirais plus encore, plus que moral, c'est un monde spirituel. Comment Dieu est grand. Un petit garçon se promenait sur les quais du port où il habitait, de la ville où il habitait avec son père, et posa à celui-ci la question suivante. « Dis-moi, papa, quelle est la taille de Dieu ? Qu'est-ce que Dieu ? Comment est-il ? Est-il grand, est-il petit? Quelle est la taille de Dieu? On retient le mot taille. Alors le Père eut la présence d'esprit de désigner avec son doigt, tendant sa main, dans le lointain, à l'horizon, un navire qui attendait de pouvoir rentrer dans le port. Comme ça arrive hein, dans nos ports, quelquefois ils sont en, pourrions dire, en rade, c'est le mot, hein, nous ça nous a une autre signification, un bateau qui ne bouge plus, mais là c'est une attente pour rentrer et faire tout son commerce hein, dans le port. Donc un bateau en rade, voilà, pouvoir rentrer dans ce port. Le navire hein, apparaissait comme un tout petit point minuscule à l'horizon de l'océan. Quelque chose qui finalement était pratiquement imperceptible, fallait-il peut-être quelquefois avoir non seulement des lunettes, mais avoir aussi des jumelles. « Regarde bien ce navire qui approche et dis-moi comment tu le vois maintenant ?» Parce que le bateau commençait à entamer sa progression vers le port. « Alors, comment tu le vois maintenant ?» Il prend de plus en plus d'importance, n'est-ce pas, à mesure qu'il s'approche de nous. Tu vois, il va passer juste tout près, devant nos yeux, juste à côté de nous, quand il va arriver au moment des quais. Alors l'enfant est complètement émerveillé, il dit « Waouh, il est énorme, c'est un géant des mers, on dirait une montagne, c'est colossal !» Tout petit de loin, remarque l'enfant, maintenant à côté, on paraît comme deux fourmis ridicules. Eh oui, et voilà. Le père de l'enfant ajouta « Eh bien, tu vois, c'est pareil à la taille de Dieu. Il est incomparable et infiniment plus et dépend de la façon, et ça c'est important pour nous de le remarquer, de le souligner, de véritablement là, le retenir, il dépend de la façon dont tu es près ou loin de Dieu. Que tu es près, que tu sois près ou que tu sois loin du navire, près ou loin de Dieu. Plus tu es proche de lui, plus tu es proche de Dieu, plus il sera grand dans ta vie, ton intimité, ta relation, ta communion te montreront la grandeur de Dieu. Alors, c'est vrai que lorsque nous réfléchissons une dernière fois à cette histoire d'étoiles, ces étoiles qui sont visibles, imperceptiblement, certainement, qui brillent, qui scintillent, ces étoiles qui conduisent parce qu'elles bougent, elles ne s'arrêtent pas. Et elles ont véritablement, et bien là on peut les suivre du regard, il faut être patient. Et une étoile ça réjouit toujours, parce que c'est un autre monde, c'est une autre dimension, on est sur là et bien des choses qui quelque part sont bien infiniment au-dessus, au plus grand que nous le sommes nous-mêmes. Et je crois que dans cette immensité infinie du ciel, dans cette constellation d'astres, hein, donc nous avons défini quelques pensées, eh bien cela nous montre encore une fois de plus que ce petit enfant à Noël, dont la famille était insignifiante en Israël, des pauvres gens, des paysans, ce petit enfant qui va naître comme tous les enfants du monde à la manière la plus naturelle qui soit, c'est-à-dire un tout petit et puis qui va devenir un homme en devenir, et qui va petit à petit remplir la terre entière, les mondes entiers, l'univers entier, pour en être le roi, pour en être le seigneur des seigneurs, pour en être finalement le sauveur, pour être le sauveur, parce qu'il l'est déjà. Et nous voyons que, quelque part, et Jésus prendra cette belle conclusion, il conclura le livre de la Bible en disant « Mais je suis l'étoile brillante du matin ». C'est-à-dire que, forcément, eh bien là, je vais amener au monde, un monde perdu, un monde qui erre dans cet univers, à cause du mal, à cause du péché, à cause là de la folie des hommes, lorsque l'on voit ce dont ils sont capables, en cruauté, en méchanceté, en égoïsme, en jalousie, et puis j'en passe, et les meilleurs. Eh bien Jésus dit, mais moi je suis l'étoile qui éclaire, je suis l'étoile brillante du matin. Jésus n'est pas venu pour dire « je suis l'étoile du crépuscule » où la nuit va venir et que ce sera l'obscurité, les ténèbres. Non, il veut venir, eh bien justement, pour que tous ceux qui sont dans les ténèbres, tous ceux qui sont dans l'obscurité, puissent eh bien voir une lumière nouvelle, voir dans leur propre vie, dans leur âme, dans leur cœur, dans leurs sentiments, dans leurs pensées, dans tout ce qu'ils sont en tant qu'hommes, eh bien voir un jour nouveau, voir une vie nouvelle. Et je pense que si véritablement Jésus a pris cette appellation « Je suis la lumière brillante du matin », c'est que véritablement, non seulement il a rempli sa mission, et que tout a commencé à Bethléem dans une crèche misérable, et que tout finit naturellement en passant par ce chemin du sacrifice, le chemin douloureux de la croix qui, eh bien, donne, qui apporte la mort. Mais nous savons qu'il y a une troisième étape, c'est la résurrection de Jésus qui rend finalement, qui rend caduque la mort pour nous donner une vie que l'on peut appeler d'éternel dans le ciel de gloire, dans le ciel où il n'y a que le jour, où il n'y a que la lumière de Dieu. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce, sa compréhension, et qu'ainsi, eh bien, vous puissiez vous souvenir qu'à Noël, eh bien, c'est une histoire d'étoiles, une histoire d'étoiles infinies, et nous savons que les dimensions de Dieu ne sont pas les nôtres. Dieu est grand, la grandeur de Dieu, eh bien, plus nous nous approchons de lui, plus nous allons le découvrir dans sa grandeur, dans son amour et dans ses perfections. À bientôt et je vous souhaite un bon Noël à tous. Merci.